J'étais invitée à présenter une synthèse de ma thèse. Or, si mon sujet concerne toujours les adaptations littéraires fidèles de textes médiévaux en bande dessinée, il dévie depuis peu vers le sujet du discours, les différents usages, les traductions, les appropriations que la bande dessinée peut faire de l'outil texte lui-même. Par exemple, comment traduire un monologue en images sans ennuyer le lecteur, comment insérer de l'ancien français et que ça soit lisible pour un lecteur, par exemple. Voilà. Donc, mon sujet, s'il gravite toujours dans des textes du Moyen-Âge, n'en est plus tellement dépendant. Mais comme il s'agit bien ici d'observer comment la bande dessinée s'applique à traduire le Moyen-Âge, mais il s'agit bien ici d'observer comment la bande dessinée s'applique à traduire le Moyen-Âge. Les textes du Moyen-Âge aiment les formes, les automatismes, les répétitions de structures narratives. Donc je vous propose d'observer comment traduire ces contraintes en bande dessinée. Et pour ce faire, je vais mettre en avant la méthodologie que j'ai dû utiliser tout au long de ma thèse pour étudier en détail les quelques bandes dessinées auxquelles j'ai dû avoir affaire. Donc en cela, je me rapproche de mon travail de thèse. Je vais donc tâcher de vous montrer une étude résolument et strictement textuelle d'un passage déterminé d'une des œuvres de mon corpus, donc Le Bel Inconnu, de Renaud de Beaujeu. Donc c'est un texte du XIVe siècle qui a donc été adapté par Nathalie Ferlu. Voilà. Donc par rapport au classement qu'on a pu voir, cette œuvre ne rentre pas tellement dans les classifications. C'est une petite maison d'édition, n'est-ce pas? Elle a rencontré peu de public. Elle s'adresse surtout à des érudits qui connaissent déjà le texte. Bon, elle peut montrer le texte, mais enfin, elle a plus d'intérêt quand on connaît le texte. Elle peut faire découvrir le texte, mais elle a plus d'intérêt quand même quand on connaît le texte. Le graphisme est très spécifique et pas particulièrement facile à l'édition. Et enfin, elle a plutôt un profil indépendant. Voilà. Donc, dans cette œuvre, j'ai donc choisi de vous montrer un passage qui semble anodin, mais qui contient toutes les contraintes formelles dont je viens de vous parler. Il s'agit du tout premier combat du chevalier de chevalerie du héros, le bel inconnu. Alors, pourquoi un duel ? Pourquoi un duel ? Cette page. Alors, dans les textes médiévaux, les scènes de duel entre chevaliers suivent un rituel narratif, c'est-à-dire des formes répétitives et déterminées, difficilement contournables pour qui souhaite être fidèle à l'œuvre d'origine. Donc si on ne peut pas contourner ces codes narratifs, il s'agit de jouer avec, de les utiliser. La question est, comment à partir de formes narratives rigides données, on peut gagner une forme de liberté d'expression pour transcender les idées qui en découlent, tout en restant donc dans les carcans narratifs préétablis, n'est-ce pas ? Tout en restant fidèle à l'œuvre. Le Bel Inconnu de Nathalie Ferlu s'applique à rester très proche de l'aventure de son héros. De fait, les premières aventures du chevalier sont reportées, à strictement parler, le plus fidèlement possible. Ainsi assiste-t-on, dans la bande dessinée, à tous les premiers duels, au moins les trois premiers, ce qui est déjà bien suffisant pour la répétition, dans l'ordre et dans le respect de la linéarité du texte d'origine. Traduire la linéarité, le fait que tout soit très linéaire, c'est assez ennuyeux et donc c'est également une contrainte très forte pour la narration. J'ai perdu ma ligne. Du texte d'origine, voilà. Jusqu'au duel qui clôt la quête du bel inconnu, donc le duel contre la guivre, contre le dragon. Voilà. Jusqu'au plus gros duel donc, que vous avez sur le petit numéro 5 du tome 2. Voilà. Lui révélant son identité et transformant donc notre bel inconnu, notre chevalier, en Guinglin, fils de Gauvin. Voilà. Ainsi peut-on observer que d'un duel à l'autre, on retrouve constamment, comme je le disais, les mêmes éléments narratifs donc, que vous avez là. Donc la description de l'ennemi, l'annonce d'un défi et la réponse du chevalier à ce défi, la mise en garde de la dame et la réponse du chevalier à cette mise en garde, le combat, le duel en lui-même, la reconnaissance du vainqueur qui se traduit en général par des discussions et ou par une promesse de se rendre, et enfin les louanges et ou la récompense issue de ce duel. Nathalie Ferlu donc suit très scrupuleusement ces différentes étapes dans sa propre adaptation de ces duels. Donc je vous propose dans cette présentation de voir comment, à travers ce premier combat, elle suit et respecte ces différentes étapes formelles tout en dépassant cette contrainte pour offrir de plus larges perspectives d'analyse ou même pour y insérer, dans la mesure du possible, ses propres parties pris. Voilà. Donc notre passage, je vous le montre, si vous bien, est composé de 3 planches. Voilà, alors la planche, j'espère que c'est assez lisible de loin, parce qu'on aura de temps en temps besoin du texte. La première planche préliminaire avant le combat, qui donc rassemble tous les éléments de mise en place, la description de l'ennemi, la description de la situation, le défi, la mise en garde de la dame, et une double planche, voilà, qui montre le combat en lui-même, qui est centré sur le combat et sur les conséquences de ce combat, la reconnaissance du vainqueur, la promesse de se rendre et les louanges et récompenses. Voilà. Ainsi, il s'agit de commencer, puisqu'elle respecte donc ces six étapes, je vais vous montrer donc ces six étapes les unes après les autres en vous montrant comment on va plus loin. Comment elle va plus loin. Il s'agit de commencer par la description de l'ennemi. Or, le premier adversaire du bel inconnu n'a rien de très palpitant. Alors, notre bel inconnu, hein, c'est vignette 3, c'est le blond un petit peu niais. Forcément, il est beau, c'est le prince charmant, il est blond, il est costaud. Voilà. Or, le premier adversaire du bel inconnu n'a rien de très palpitant. Il est humain, c'est un chevalier. Comme notre héros, on ne le voit que de très loin dans des vues d'ensemble incluant le pont. Donc on le voit à vignette 2, vignette 1, 2, 3, 4, 5 et vignette 6. Là, je ne sais pas si vous le repérez. Hein. Il est là, caché là. Et puis, là. Voilà. Donc il est vraiment tout petit, il est inclus avec le pont. La bande dessinée prend d'ailleurs le parti de ne pas le nommer dans cette scène, alors que le texte le nomme, et choisit de lui octroyer des armures rouges contre le surcot outre-mer dans l'œuvre originale. Armoirie qui tente seulement à prouver qu'il est pétri de mauvaises intentions, qu'il est molte et toit plein, je vais vous le dire en français, qu'il est cruel, au cœur rempli de férocité et de perfidie, par rapport d'Ixit le texte. Voilà. Même en gros plan, son identité est cachée par le home de chevalier qu'il arbore. Il se fait ainsi l'égal alter ego sombre de notre bel inconnu. Il est anonyme et c'est un combattant. Le parallèle qui se crée avec le héros instaure une forme de symétrie qui favorise la compréhension d'un code d'honneur entre les deux personnages. Le bel inconnu appuie d'ailleurs sur cette idée vignette 4, donc de notre page, la vignette 4, en élevant l'hypothèse que, malgré le fait qu'il ait l'air un petit peu acariâtre, n'est-ce pas, que comme lui, ce chevalier adverse est mu par une quête et par des intentions nobles. L'idée est d'ailleurs présente dans le texte d'origine, vers 335-337, où il est dit « Ainsi, attendons à sa aventure, main chevalier l'ont trouvé dur, qu'il la voie aussi au guet. » Donc ainsi ce chevalier attendait son aventure, beaucoup de chevaliers ont trouvé cela dur étant donné qu'ils sont morts sur le guet, puisque c'était là l'aventure de nos chevaliers, n'est-ce pas? Donc ce que dit le bel inconnu là dans cette, je ne sais pas si tout le monde le lit, c'est il doit avoir une noble raison ou alors c'est une quête, voilà, c'est pour ça qu'il arrête tout le monde au guet. Le bel inconnu de Nathalie Ferlu s'applique à rester, non ça c'est quelque chose. Je suis désolée pour l'organisation, c'est pas terrible. C'est là. Mais cette forme d'égalité crée une tension qui tend à penser que même si le combat réel commence à la page suivante, il est déjà bien entamé ici par une phase d'intimidation qui oppose les deux chevaliers. Il faut comprendre que le fait justement que ces chevaliers se sentent égaux entraîne un malaise, puisque leur but est d'être plus forts l'un que l'autre à la base. Donc s'ils se sentent égaux, ben, forcément ça ne marche pas. Ainsi, l'annonce du défi prend une forme implicite d'intimidation, si elle ne fait pas déjà partie un peu du combat. Le chevalier du guet est donc fidèle à sa fonction, puisque comme il n'a pas le nom, il n'existe que par sa fonction. Il se doit donc d'accomplir sa propre quête et de lancer son défi au nouvel arrivant. Les vignettes qui montrent donc ce défi en lui-même sont les vignettes 5 et 6. Et elles sont centrées, c'est les vignettes qui sont très longues, voilà, où on les voit d'abord de loin, puis on zoome. Et donc, quand on lui dit bonjour, en gros, il répond « donnez-moi de l'or ». Voilà. Donc, je vous lis les phylactères. Je te donne mon bonjour, aimable gardien du pont. Ce à quoi il répond « Je te le rends, donne ton or et ton cheval si tu veux passer. » Voilà. Ça va plus loin au texte suivant, où il dit « Si tu ne me payes pas, je t'embroche le cœur », en gros. Voilà. Toute la planche étant consacrée à cet unique but, ces deux vignettes sont centrales et donc mises en valeur. Mais le défi est davantage mis en évidence par la mise en situation du personnage du chevalier du guet. Donc, le chevalier du guet, on l'a vu, est lié au passage du pont. Il est donc décrit en situation avec le lieu du péril, le baran en long, dans la vignette 5, on voit bien la longueur du pont, et en large, dans la vignette 2, où on voit qu'il est également au milieu du pont. On ne peut pas passer à côté. Cette posture fait écho aux vers 364 et 366 de l'œuvre, qui résument la situation que lui impose sa quête. Il se plaça devant le guet, si bien que personne ne pouvait le franchir sans combattre avec lui. Ainsi, la forte contre-plongée de la vignette 2 nous le présente comme le maître des lieux, juché au point culminant de son royaume, le pont. Cette mise en scène lui prête une contenance arrogante qui n'appelle à aucune autre possibilité qu'à l'affrontement. Le personnage est également uniquement tourné vers la gauche, c'est-à-dire donc dans les trois fois où on le voit, il a toujours la tête tournée à gauche, lui et même son cheval. C'est-à-dire qu'il est dans le sens inverse de la narration, puisqu'on lit de droite à gauche. Voilà. Il s'autoproclame ainsi obstacle de l'avancée du héros, obligeant au conflit par son unique présence. Le texte, s'il est relativement secondaire, joue également un rôle dans la mise au défi. Il n'est pas respecté à la lettre par l'auteur, mais il suit les grandes lignes de rythmique et d'intention. En gros, vous voyez qu'il parle beaucoup. En fait, tout ça, c'est respecté dans le texte d'origine, donc je vais pas le voir en détail, mais en gros, pour montrer les grandes lignes, on a le bel inconnu qui est assez doux et poli, qui lui explique pourquoi il veut passer, et en détail. Et son adversaire, en général, lui répond de façon incisive et violente. Donc l'opposition est présente en force. L'intérêt surtout de constater que lorsque deux chevaliers se croisent, l'égalité est le dernier de leurs soucis, puisqu'il s'agit au contraire de savoir qui est le plus fort, on l'a dit, et donc inévitablement de se mesurer l'un à l'autre. Donc le combat. Alors le combat, je vais vous lire en fait le combat tel quel dans le texte, et vous allez voir que voilà, là on a l'impression que elle a dessiné un combat de façon assez arbitraire. En fait, elle a respecté toutes les grandes étapes du combat. Voilà. Donc je retrouve la page et je vous le lis. C'était page 13. Voilà, ils s'éloignèrent l'un de l'autre, chacun se préparant de son mieux pour la rencontre. Une fois prêts, ils se placèrent l'un face à l'autre, puis ils promenèrent vigoureusement leurs chevaux. C'est notre vignette 1. On va bien voir, sous peu, qui aura le dessous. Bliobiéris, parce qu'il est nommé dans le texte, n'est-ce pas, attaque l'inconnu, lui arrache le bouclier. Voilà. Quant au bel inconnu, il ne manqua pas son coup, il frappa son adversaire à hauteur de la boucle de l'écu qu'il perça. Donc c'est notre vignette 2. Il lui fit vider les arçons, et malgré les étriers, Bliobiéris tomba de cheval et se retrouva, les paumes appuyées sur le sol, vignette 3. Comme il ne manquait pas de courage, il se releva immédiatement et porta la main à son épée. Dit qu'il lui trouvait son souffle, il alla en frapper l'inconnu avec une telle violence qu'il lui tua d'un seul coup son cheval. Et on voit bien, vignette 1, 2, 3, 4, 5, que le cheval est tué d'un seul coup puisqu'il est décapité, il n'y a pas lieu à l'ambiguïté. Voilà. Donc les voilà à pied tous les deux, donc vignette 6, ils se retrouvent tous les deux à pied. Ils empoignent leurs épées en donnant de grands coups sur les haumes et les boucliers. Bon, alors, là, on ne voit pas de feu voler, effectivement, parce que le texte va un petit peu plus loin. On voit du feu voler, des étincelles jaillir des haumes. Ils se livrent une rude bataille. Donc là, c'est notre suite, n'est-ce pas, de la page 15, où la bataille est si rude que finalement, on n'en voit plus le décor. On s'intéresse qu'au sujet lui-même. Donc ils se livrent une rude bataille. Mais avant d'en voir la fin, Bliobiéris sent ses forces diminuer car le sang ne cesse de couler de la blessure qu'il a reçue. C'est ainsi, il n'y peut rien. Le bel inconnu l'attaque sans relâche. Et là, nous sommes à la vignette 4 de la deuxième planche. L'attaque sans relâche. Et soudain, il lui porte sur le haume un tel coup d'épée qu'il le fait tomber à genoux. Donc Bliobiéris est déjà à genoux dans notre vignette 4. Il fera tout ce qu'il... Il le supplie au nom de Dieu de ne pas le tuer. Il fera tout ce qu'il voudra. Il n'enfreindra jamais ses ordres. Et là, nous voyons dans les vignettes suivantes qu'il est toujours à genoux, donc qu'il le supplie, qu'il reconnaît qui est le vainqueur. Voilà. Donc, c'est extrêmement fidèle. C'est vraiment très proche du texte. Hein. C'est... voilà. Le combat. Mais bon... 9. La bande dessinée retranscrit donc égalité et opposition qui caractérisent les conditions des deux chevaliers. Ils sont dans la même situation, se comprennent. Alors, est-ce que j'ai pas loupé un truc ? Ils sont dans la même situation, ils se comprennent en conséquence. Mais leur statut les oblige à se départager et donc à ne pas être égaux. Nathalie Ferlu retranscrit donc à merveille cette complexité des relations qu'il pouvait y avoir de chevalier à chevalier. Ajoutons à cela la valeur occidentale quasiment manichéenne. Donc je vais vous épargner, vous avez bien vu qu'il y en a un qui est blanc, qui est blanc et bleu et l'autre qui est rouge et noir, hein, le gentil et le méchant. Mais sans leur on retrouve cette valeur manichéenne dans leur altercation verbale. Ils se reprochent chacun la vision opposée qu'ils ont du monde de la chevalerie. Voilà. Et donc ça, on le voit très bien dans les vignettes 4 et 6. Voilà, 4 et 6 de notre première page. Donc, ce sont deux gros plans, les deux gros plans des deux adversaires, deux portraits, des personnages. L'un est lumineux, l'autre très sombre. L'un regarde un peu vers la droite, l'autre regarde beaucoup vers la gauche. Donc, il y en a un qui va dans le sens de l'action, hein, qui est donc c'est positif, et l'autre, beaucoup vers la gauche, par contre, est très négatif. Voilà, 3... Alors, je sais pas, arrêtez-moi quand je dépasse un petit peu, parce que... Je sais pas... Voilà, donc cette opposition visuelle suffirait, mais la bande dessinée est une forme de narration, donc elle le souligne par la narration, en créant un lien caché entre les deux vignettes. En regardant la vignette du haut, on voit que le bel inconnu, on ne sait pas, c'est pour ça que le lien est caché, il y a une ambiguïté, on ne sait pas si c'est qu'il a les yeux fermés ou si c'est qu'il regarde en bas vers son adversaire. Ce lien passe par les phylactères, donc comme je vous ai lu le phylactère qu'il y a juste en dessous, quand on suit la direction des yeux du bel inconnu, on se retrouve à lire le phylactère en dessous, où le bel inconnu trouve une excuse donc à son adversaire. Donc Il est écrit, il doit avoir une noble raison d'agir ainsi, il doit avoir une quête. Voilà, donc il le traduit selon sa vision à lui du monde de la chevalerie. Ce à quoi, donc si on continue la continuité, le lien au niveau des yeux, on a le phylactère, et donc si on va plus bas, on se retrouve avec le visage, le portrait de son adversaire, qui lui aussi va. Donc du coup, on a une opposition et des portraits et de ce qu'ils disent. Et donc dans ce qu'ils disent, de leur point de vue, de la chevalerie. Et donc mot à mot, ce que dit donc Bliobliéris, ta pucelle à long nez, garde-la, et pour ton cœur, si tu ne me payes pas, je te l'embrocherai. Donc il répond sur un ton, j'allais dire complètement différent. Il est un petit peu perdu le fil. Voilà. Alors que pour le bel inconnu, on tendrait à observer dans sa remarque, qui paraît anodine et même un petit peu niaise, une sorte de code secret qui uniquement compris par les chevaliers, qui le rapprocherait donc peut-être un peu d'une certaine façon de son adversaire. Le jeu de regard nous fait tomber sur le gros plan de son adversaire en question, lequel, plus aguerri, vit l'aventure sur une autre sorte de tonalité. Donc le phylactère illustre pour l'un le côté le plus haut qu'on peut trouver dans la vision la plus haute qu'on peut trouver dans la chevalerie, pour l'autre la bassesse du même état. Voilà. Donc en cela aussi, ils sont opposés. Voilà, l'un est une brute matérialiste qui tue pour très peu, pour un petit peu de sous, et l'autre est suivi par son idéal, par la compassion, puisqu'il cherche des excuses à son adversaire. Ajoutons à cela, ça je l'ai dit, voilà, on voit une autre opposition très courte pendant le combat. Voilà. Donc, c'est les vignettes 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, où l'un reproche à l'autre de ne pas être assez courtois devant les dames, et qu'il insulte les dames, et l'autre lui répond qu'il est bien trop naïf. Voilà, donc... donc oui, voilà, le bel inconnu a une vision naïve et très optimiste, mais il est surtout idéaliste et inconscient des dangers. Il se trouve aussi également à la fin qu'il laisse sa vie à son adversaire, alors que son adversaire, lui, manque de courtoisie. Il a du mépris pour les femmes, il insulte les personnes qui sont en face de lui. Par exemple, il insulte la dame qui accompagne notre belle inconnue. Il est décrit comme cruel, perfide et féroce, ce qui est traduit dans la bande dessinée par vicieux et sans pitié. Il méprise les codes de chevalerie puisqu'il égorge ceux qui ne payent pas, mais il égorge aussi ceux qui payent. Voilà. Le combat prend ici une dimension en plus par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure où on voit juste le combat par rapport aux actes. C'est fini ? D'accord. Bah, je finis avec le combat. Voilà. Ça m'a arrêté. Tout à l'heure, on a vu que c'était juste les actes. En fait, là, on voit une dimension en plus, vu que les chevaliers semblent se battre, finalement, pour leurs idées du code de la chevalerie. Donc, que les chevaliers... Que les deux chevaliers opposent directement leur vision de leurs conditions, en plus d'opposer leur force au combat, crée polémique, étant pour le lecteur à se poser la question du statut de chevalier. L'un est au début de sa quête, l'autre a déjà du chemin derrière lui. Notre texte précise qu'il combat depuis 7 ans sur le guet, alors que c'est le premier combat du bel inconnu. L'un... Donc l'un est au début de sa carrière, l'autre à la fin. D'ailleurs, si j'ose dire, l'autre laisse la place à l'un, puisque notre belle inconnue gagne le combat, et c'est le dernier combat de son adversaire. Alors au-delà des notions de bien et de mal, l'important ne serait-il pas d'avoir ou non des idéaux, de garder ou non ses idéaux, et de ne pas avoir à perdre ou non ses idéaux, j'allais dire, ses idéaux, ses convictions. Au profit, comme il se passe certainement pour l'adversaire du bel inconnu, là, au profit de la désillusion et de la lassitude, au risque de devenir donc un chevalier déchu. Alors ça fait réfléchir pour un premier combat pour par rapport au bel inconnu, étant donné que là il trouve peut-être son futur, c'est peut-être une forme de futur de la chevalerie qui est, on peut dire, assez négative. Donc les enjeux, comme vous pouvez le constater, vont beaucoup plus loin qu'une simple joute d'homme à homme. On se bat pour ses idées, notre réussite au combat dépend de nos idées. On se bat, et si on se fait battre, on est entaché dans l'âme, puisque finalement, ce sont nos idées qui sont mauvaises et gâtées, et donc qui ne nous ont pas portées. Voilà. Donc le combat est également, au-delà d'être d'être face à l'autre et sur soi-même, puisqu'il s'agit aussi d'avoir ses idées claires. Donc le code de chevalerie demandant d'aller vers la lumière, donc d'avoir des idées lumineuses et de ne pas se perdre en chemin. Et comme semble-t-il, on n'a plus de temps. Je vais donc vers la lumière. Vous voyez, on voit bien là, sur la dernière vignette, au moment où il gagne, l'aube apparaît. Voilà, donc... On va dire que c'est un bon présage pour un premier combat qui montre qu'il est sur la bonne voie. Voilà, pour résumer très vite le reste. Parce que,
Merci. C'était vraiment intéressant de voir la lecture du texte avec les deux planches et de voir justement comment est-ce qu'on passe d'un texte littéraire à une bande dessinée.
Il y a énormément de choses à dire en fait à chaque fois, donc
c'est pour ça que c'est intéressant. Et justement, la question que je voudrais te poser, c'est celle de l'adaptation littéraire. C'est un genre qui, d'un point de vue commercial, marche bien en ce moment, l'adaptation littéraire. Je ne parle pas de littérature médiévale, hein, de littérature en général. On le fait pour deux raisons, soit pour légitimer une collection, pour légitimer la bande dessinée en disant, voyez, nous on adapte Balzac, on adapte Proust, etc. Soit pour vendre, parce que de nombreuses personnes qui veulent parler de la recherche, mais qui n'ont pas le temps de la lire, l'achètent en bande dessinée. La recherche existe en bande dessinée, la qualité littéraire est proche du néant, mais ça permet d'avoir un résumé de classique assez rapide à lire, et ça permet de parler en société et puis même de s'intéresser.
On est sur Wikipédia.
Oui, mais c'est plus ludique. En tout cas, ces œuvres littéraires, ces bandes dessinées qui adaptent de la littérature sont bien souvent mauvaises, sauf justement quand elles ne veulent pas être fidèles à l'œuvre. C'est un peu comme au cinéma, si on pense aux adaptations de films adapté de bande dessinée. On a des échecs, par exemple le dernier Tavernier qui adapte Quai d'Orsay, il a voulu être fidèle à la bande dessinée, il a voulu retrouver le rythme, et il ne l'a pas retrouvé, enfin les critiques ont été mauvaises avec lui, parce que justement le rythme de la BD n'est pas le rythme...
C'est complètement différent.
Enfin, on a ce problème. À l'inverse, les films qui adaptent des bandes dessinées où ça marche bien, c'est ceux qui ne les respectent pas. Quand on pense au Astérix...
Quand ils ajoutent quelque chose, ils
voilà.
donnent quelque chose à
Quand
ajouter,
on pense au Astérix, il y en a quatre déjà, trois qui sont assez fidèles et qui ne sont pas bons. Le quatrième, le Chabat, qui n'est pas du Astérix, enfin, les personnages ne sont pas dedans et qui, pour le coup, a bien marché. Oui. Ma question, ce serait, est-ce qu'il y a au niveau de l'adaptation de la littérature médiévale, d'une part, quelles sont les motivations des auteurs? Parce que toi, tu connais bien ce domaine-là. Est-ce que leur but c'est de transmettre un texte compliqué en le simplifiant? Est-ce que leur but c'est de rester fidèle ou de ne pas rester fidèle? Et là, tu as montré avec cette planche qu'on était vraiment dans de la fidélité extrême.
C'est le parti pris de cet auteur-là.
Est-ce que ces adaptations sont une réussite pour toi parce qu'elles sont fidèles ou bien qu'elles soient fidèles?
Alors, ça fait beaucoup de questions en fait. Je crois qu'il y a trois points. Il y a trois points là qu'il faut. D'abord, ce qui fonctionne du point de vue édition en ce moment, ce ne sont pas des adaptations littéraires, ce sont des biopics, c'est surtout des adaptations historiques finalement. On va retrouver la vie d'un tel ou d'un tel, donc c'est ce qu'on va voir cet après-midi certainement. Ça fonctionne, mais ce n'est pas de la littérature, on reprend la vie de quelqu'un. Alors, à moins qu'effectivement il y ait un texte connu de cette personne-là et qu'on va s'appuyer sur le texte au lieu de s'appuyer sur ce qu'on sait d'un point de vue historique, de l'histoire avec un grand H, c'est deux travaux différents. En fait. Du point de vue de la littérature, des adaptations vraiment de textes sur des textes qui existent, qui sont connus ou méconnus, qui sont publiés ou non publiés. En général, comme je l'ai dit, le profil n'est pas du tout. Ça se passe à côté. Ce sont des indépendants, parce qu'en général, ce sont des coups de cœur. C'est un auteur qui a beaucoup aimé le texte, qui l'a lu par curiosité par ailleurs, qui a beaucoup aimé le texte et qui a voulu le faire partager, par exemple. Voilà, donc c'est surtout dans ce profil-là que ça va fonctionner. En fait. Et alors après, les adaptations qui fonctionnent ou ne fonctionnent pas, en général, il s'agit, au-delà d'adapter le texte, il faudrait que l'auteur lui-même ait lui-même un parti pris dans la façon dont il va adapter le texte. C'est-à-dire pour l'œuvre que j'ai là, elle a réellement décidé de suivre mot à mot, donc de suivre le côté initiatique de cette œuvre. Donc là, on est au tout début de l'œuvre, donc elle va suivre mot à mot. On va du réel à l'imaginaire. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu le dernier combat, là, comme j'ai fait passer. Le dernier combat qui était dans les petites... j'ai laissé des... Voilà, le dernier combat, c'est le combat contre la vouivre. Ça n'a plus rien à voir avec... Avec ce chevalier-là, on est dans un combat très réel. Le dernier combat, c'est vraiment le combat contre l'ombre, le combat contre la mort, le combat contre... Ça va beaucoup plus loin que juste battre un dragon de façon très réelle, j'allais dire. Voilà. Mais c'est parce qu'elle décide d'aller plus loin, et c'est ce que j'ai essayé de montrer là, c'est qu'à chaque fois, elle décide de montrer un grand, grand parti pris, d'aller très loin dans les directions... Que propose le texte lui-même, vu que ce qui était probablement lisible pour les gens, j'allais dire jadis, les gens il y a 800 ans, le code de chevalerie, nous il faut nous le décrypter. Voilà, là j'ai eu besoin de vous le décrypter pour montrer à quel point ça va loin et à quel point c'est pas juste de personnes qui jouent avec, une épée. C'est il y a l'idée de vouloir montrer les enjeux. Que vivaient les chevaliers en se battant. Voilà. Mais d'une adaptation à l'autre, ça va être il n'y a pas de règle. Ça va être vraiment chacun, ça va être, j'ai pas le mot là, mais
chacun adaptera selon
quand on s'adapte juste à la personne qui est en face de soi. Comment ça s'appelle?
Mimétisme ?
Non, pas du tout. C'est vraiment qu'on est... ça va être très personnel. Je pensais tout à l'heure à la fable de Maître Patelin, qui est donc cette œuvre qui reprend un passage entièrement en ancien français. Là, le parti pris, ça a été, au-delà du point de vue médiéval, ça a été de reprendre le côté théâtral. C'est-à-dire, il va faire jouer ses personnages, il va leur faire faire des mimiques, et il va s'arranger pour que ses vignettes soient lisibles dans tous les sens. C'est-à-dire, d'une lecture à l'autre, on aura la possibilité ou de lire, comme je disais tout à l'heure, de droite à gauche, ou de lire de haut en bas, ou de lire en diagonale, ce qui fait qu'à chaque fois, son personnage, par ses mimiques, va avoir une vision, une façon de bouger qui est différente, et donc va... J'allais dire, comme au théâtre, il n'y a pas deux représentations pareilles, vu que les acteurs jouent de façon différente à chaque fois. Donc là, pour le coup, il y a une forme de mimétisme du théâtre. Alors bon, je ne l'ai pas présenté parce que ce n'était pas médiéval, à proprement parler. Le côté médiéval, c'était le plus du point de vue du sujet, mais lui travaillait surtout sur le théâtre, de ce point de vue-là. Voilà. Mais ça va être à chaque fois, effectivement... un petit quelque chose en plus qui n'empêchera pas de garder le texte de base, qui ne modifiera pas plus que ça le texte médiéval.
Ben merci, s'il n'y a pas d'autres... Voilà.
J'espère que c'était très clair, que c'était clair, parce que je me suis un peu emmêlée. Je suis désolée.
Ben merci en tout cas. Et puis s'il n'y a pas d'autres questions, donc on va aller manger, on va tous manger à la... enfin, à la cantine qui est au bout du chemin là-bas. Et on se retrouve en théorie à 14h. Bon, si on n'a pas fini de manger, on...
peut-être
14h10. Enfin, voilà, on se retrouve aux alentours de 14h ici pour un entretien au long cours sur la, une, collection de, une nouvelle collection de Glénat. Merci. Non. Ah. Et mec, on a les clés ou pas? T'as les...
Non.
Il faut le PC sécurité chercher.
Non, on peut pas laisser les affaires ici.
Non, bah alors non. Non.
Tu l'as arrêté, je vais le prendre.
Non, vas-y, arrête-le, s'il te plaît.
Ouais, moi j'ai mon avis, je vais le laisser ici.
Vous le laissez ici?
Je crains, non.